Vous écoutez RFI Midi dans 30 minutes, le journal de Midi, temps universel, ce sera avec vous, Charlotte Hydrac, bonjour.
Bonjour.
Quelques heures à peine après l'annonce d'un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, eh bien les deux pays ont chacun violé la trêve.
Cessez-le-feu annoncé à la surprise générale par Donald Trump, et c'est le même président américain qui vient de confirmer la reprise des échanges de tirs entre les deux pays. Il demande à l'État hébreu, je cite, de ne pas lâcher ses bombes sur l'Iran, de ramener ses pilotes à la maison maintenant. Après 12 jours de confrontations qui ont fait au moins 610 morts en Iran, c'est le dernier bilan.
Donald Trump qui va participer au sommet de l'OTAN.
Ouverture tout à l'heure et jusqu'à demain aux Pays-Bas, avec l'objectif d'augmenter les dépenses de défense des membres de l'Alliance Atlantique à hauteur de 5% du PIB. En jeu aussi l'aide à apporter à l'Ukraine. Le président Zelensky est invité alors qu'un bombardement russe a fait 7 morts aujourd'hui à Dnipro. Un message de terreur envoyé par Moscou, selon Kiev. Et puis à suivre aussi en France, une tentative de la dernière chance de François Bayrou. Le Premier ministre reçoit séparément les partenaires sociaux après l'échec du conclave sur les retraites.
Merci beaucoup Charlotte Hydrac. À tout à l'heure, midi, temps universel.
RFI, l'Europe à midi.
Les dirigeants des 32 pays de l'OTAN convergent vers La Haye, aux Pays-Bas, sommet annuel de l'Alliance Atlantique que vous suivez pour nous. Julien Chavanne, bonjour.
Bonjour.
Un sommet dominé par les questions financières. Julien, Donald Trump a réclamé à ses alliés de dépenser plus d'argent. Est-ce qu'il a été entendu ?
Il a été entendu. Un accord sur l'objectif des 5% devrait être officialisé ici. C'est une énorme augmentation. Marc Rutteux, le secrétaire général de l'ONU, parle déjà d'un sommet historique. Voilà pour les déclarations officielles, car tout n'est pas réglé. L'Espagne, par exemple, a obtenu un délai, ce qui fait des jaloux. Mais l'essentiel pour les pays de l'OTAN était de sauver l'unité de l'Alliance, alors que Donald Trump menaçait de retirer les troupes américaines d'Europe. Il fallait donc offrir au président américain une victoire pour l'apaiser. Écoutez l'analyse d'Oana Lungescu. Elle a été porte-parole de l'OTAN et elle est aujourd'hui chercheuse au groupe de réflexion britannique, le Royal United Services Institute.
Je pense que c'est l'un des objectifs de Mark Rutte. D'une part, inciter les alliés à investir davantage dans la défense. D'autre part, assurer une victoire politique au président Trump à La Haye. Beaucoup de personnes, dont Mark Rutte lui-même, se souviennent sans doute du sommet de Bruxelles de 2018. Trump y avait fait un tour de table pour critiquer les autres dirigeants de l'OTAN, les accusant de ne pas avoir dépensé suffisamment. Tout le monde veut éviter cela. C'est pourquoi le sommet cette année est beaucoup plus court. Une seule séance de travail d'environ 2h30 est consacrée principalement à l'argent.
Et d'ailleurs, cette hausse des budgets a fait réagir la Russie, qui se sent directement menacée. Le Kremlin a dénoncé ce matin la militarisation effrénée de l'Alliance.
L'annonce d'un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël s'invite aussi au sommet, Julien.
Ouais, c'était inévitable. Le programme ici a changé ces dernières heures. Tout a été en quelque sorte chamboulé. Et on vient d'apprendre que la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne se réuniront au début du sommet tout à l'heure. Emmanuel Macron, Keir Starmer et Friedrich Merz discuteront en format dit E3 dans le jargon diplomatique. C'est un trio qui est né en 2003 dans le cadre des négociations sur le nucléaire iranien qui avait abouti à l'accord de Vienne. Emmanuel Macron a aussi prévu de rencontrer Donald Trump en tête à tête.
Emmanuel Macron et Donald Trump qui doivent aussi rencontrer Volodymyr Zelensky.
Invité de ce sommet, hein, il rêve de voir son pays intégrer l'OTAN, mais les États-Unis bloquent. Donald Trump et Volodymyr Zelensky doivent se parler en face à face demain après-midi. Le président ukrainien qui va plaider auprès de son homologue américain pour de nouvelles sanctions contre la Russie. Il va aussi demander des armes. Les relations entre les deux hommes sont compliquées. On le sait, on se souvient de leur dispute dans le bureau ovale. D'ailleurs, ici, tout est fait pour plaire à Donald Trump et éviter un départ précipité du président américain comme au dernier G7. Le sommet a été ramassé sur un jour et demi, un dîner, une réunion de travail de 3 heures, et puis c'est tout.
Merci beaucoup Julien Chavanne en direct de La Haye aux Pays-Bas pour suivre ce sommet de l'OTAN.
Berlin, 96.7 FM.
Après les opérations militaires d'Israël et des États-Unis contre l'Iran et son programme nucléaire, la situation reste des plus tendues. Téhéran a donc ces dernières heures attaqué des sites militaires américains au Qatar et en Irak. Le cessez-le-feu annoncé il y a quelques heures par Donald Trump entre l'Iran et Israël ne semble pas tenir. Le président américain le dit lui-même. Le chef d'État américain qui a accusé les deux pays de ne pas l'avoir respecté. Donald Trump a fait cette déclaration juste avant son départ pour le sommet de l'OTAN aux Pays-Bas qui débute Ce soir, en Allemagne, le chancelier Merz a prononcé une déclaration de politique générale juste avant ce sommet et celui qui doit suivre entre les 27 pays de l'Union européenne. Bonjour Pascal Thibault.
Bonjour.
Friedrich Merz a donc consacré la majeure partie de son discours à la politique étrangère. Il a aussi, bien sûr, évoqué les tensions entre l'Iran et Israël.
Oui, tout à fait. Le chancelier a tout d'abord réitéré sa solidarité traditionnelle de l'Allemagne avec Israël, qui, je cite, a le droit de se défendre contre l'Iran. Friedrich Merz a dénoncé le rôle négatif de Téhéran dans la région. Pour lui, le 7 octobre 2023, avec les attaques du Hamas contre Israël, n'aurait pas pu avoir lieu sans le soutien de longue date de l'Iran en faveur de ce même Hamas. Le chancelier a non seulement salué les frappes israéliennes un dernier jour contre l'Iran, mais aussi contre le programme nucléaire de Téhéran, mais aussi les bombardements effectués par les États-Unis contre les sites de ce même programme nucléaire. Je vous propose d'écouter le chancelier.
L'Iran déstabilise l'ensemble du Proche et du Moyen-Orient depuis des années. Téhéran ne doit pas avoir d'armes nucléaires. Nous espérons que les opérations militaires israéliennes et américaines des derniers jours empêcheront l'Iran sur la durée d'atteindre ses objectifs dangereux. Nous saluons l'appel du président américain en faveur d'un cessez-le-feu. S'il s'impose, alors il s'agira d'un développement très positif qui peut rendre le Moyen-Orient et le monde plus sûrs. Nous appelons l'Iran et Israël à répondre à cet appel du président américain.
Pascal, Friedrich Merz a aussi évoqué dans son discours la situation humanitaire à Gaza. Qu'est-ce que le chancelier a déclaré ?
Eh bien, il a estimé que le moment était venu d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza, en parallèle de celui annoncé par les États-Unis, donc entre Israël et l'Iran. Friedrich Merz a également appelé Israël à un traitement humain, je cite, des personnes vivant dans la bande de Gaza, en particulier des femmes, des enfants et des personnes les plus âgées. Ce matin, le responsable de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini, déclarait à Berlin que la situation restait catastrophique à Gaza, et il rappelait que l'acheminement de l'aide humanitaire restait très difficile.
Le discours de Friedrich Merz qui avait lieu quelques heures avant le sommet de l'OTAN où Berlin veut jouer les bons élèves. Hein.
Oui, effectivement, on a entendu tout à l'heure quels étaient les objectifs de ce sommet, notamment une augmentation des dépenses militaires pour les pays membres de l'OTAN. Eh bien, avec l'adoption ce matin au Conseil des ministres à Berlin du budget, des budgets pour les années à venir, eh bien, on voit que celui de la Bundeswehr, des forces armées allemandes, va augmenter de 50% d'ici la fin de la décennie pour atteindre plus de 150 milliards d'euros. Cela permettra, ce quoi qu'il en coûte, permis par une réforme de la Constitution, eh bien à Berlin, de dépenser sensiblement plus sans limite, en quelque sorte, pour ses forces armées et d'atteindre les 3,5% de dépenses militaires du produit intérieur brut pour l'armée que l'OTAN veut donc adopter ce soir et demain lors de ce sommet de La Haye, après que Berlin a été souvent critiqué par la première administration Trump pour des dépenses militaires jugées insuffisantes par Washington.
Merci beaucoup Pascal Thibault en direct de Berlin pour RFI. Et on reste justement en Allemagne, le pays qui a complètement changé de politique de défense à cause de la guerre en Ukraine, mais aussi de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, qui ne veut plus financer la dépense européenne, et la nomination de Friedrich Merz au poste de chancelier qui consacre désormais des sommes considérables à la défense. On vient d'en parler. Un fonds de 100 milliards d'euros a été créé. C'est du jamais vu depuis des décennies. Delphine Nerbollier, est le signe que les mentalités sont en train de changer en Allemagne.
Il fait une chaleur de plomb en ce dimanche de juin dans la capitale allemande. Au pied du Reichstag, de nombreux stands ont été dressés. L'armée de l'air, l'armée de terre, les jeunes officiers, partout des militaires accueillent le public lors de cette journée des vétérans, une première dans le pays. Devant un stand, le lieutenant Julia Suzanne, cheveux courts et blonds, se réjouit du nouvel intérêt de la population envers la Bundeswehr. Cette femme officier a participé à plusieurs opérations de l'armée allemande en Irak et au Kosovo.
Avant la guerre en Ukraine, la population nous montrait un désintérêt bienveillant. Maintenant, les choses sont différentes et pour la première fois, comme avec les Américains, les gens viennent nous voir et nous remercient pour notre travail. Cela signifie beaucoup pour moi en tant que soldate. On m'écrit beaucoup via les réseaux sociaux, on me pose beaucoup de questions. Du fait que j'ai des racines turco-kurdes, des jeunes issus de l'immigration, mais aussi des femmes m'écrivent directement et me demandent comment c'est dans l'armée. Je n'ai jamais eu autant de demandes que ces dernières années.
L'invasion de l'Ukraine par la Russie a en effet marqué un tournant dans les mentalités allemandes, marqué par un profond pacifisme. Après la chute du rideau de fer, le pays se sentait en sécurité, protégé par l'OTAN et par le grand frère américain. Mais cela change, comme le constate le colonel André Wüstner. Il préside la Fédération de la Bundeswehr, une organisation qui représente les intérêts des soldats et des soldates.
Les gens qui croyaient depuis 1990, avec la chute du pacte de Varsovie, que la paix était un état permanent, ont maintenant malheureusement conscience de la nouvelle réalité. Malheureusement, il ne s'agit pas d'imposer un militarisme ou de dire que nous voulons faire la guerre. Non, il s'agit de défendre notre mode de vie en paix et en liberté.
Si les esprits ont évolué, c'est aussi car la politique a réalisé un virage à 180 degrés en février 2023, avec l'invasion de l'Ukraine. Avec son fameux Zeitenwende, le changement d'époque, le chancelier Olaf Scholz a promis de remettre à niveau la Bundeswehr, longtemps négligée. Un fonds spécial de 100 milliards d'euros a été débloqué, et son successeur, le chancelier Friedrich Merz, a lui aussi desserré les cordons de la bourse. La situation dans les casernes s'est améliorée, mais les défis restent énormes, comme le constate le colonel Wüstner.
Beaucoup de choses ont été mises en place et ont avancé en ce qui concerne les achats de matériel. De nouveaux contrats ont été conclus, allant des munitions aux véhicules. Or, le défi, c'est que nous devons croître énormément pour répondre aux engagements de l'OTAN. L'Allemagne devra compter entre 250 000 à 260 000 soldats actifs. En soi, ce n'est pas si difficile si l'on dispose de 20 ans. Or, nous n'avons pas ce temps. Nous devons grandir de cette manière en 4 ou 5 ans. Cela va être un énorme défi.
Un des enjeux principaux est en effet le manque de personnel dans une armée qui peine depuis des années à dépasser la barre des 180 000 soldats. On parle donc de plus en plus d'un retour du service militaire volontaire sur le modèle suédois. Concrètement, les jeunes hommes de 18 ans pourraient bientôt recevoir un document à remplir et les profils jugés les plus adaptés seraient invités à un service militaire de 6 mois. Aucun texte n'a encore été adopté, mais auprès des jeunes, le débat est sensible, comme nous le constatons auprès de ces deux Berlinois de 20 ans.
Ceux qui veulent faire leur service, qu'ils le fassent. Je ne veux empêcher personne. Un service volontaire, oui. Obligatoire, non.
Dans la situation actuelle du monde, on parle bien sûr de devoir davantage s'engager pour la sécurité du pays. Je le comprends parfaitement. Mais personnellement, je ne veux pas faire le service et encore moins y être contraint.
En attendant qu'un texte de loi soit adopté, peut-être d'ici la fin de l'année, des officiers dits de jeunesse sont chargés depuis des années d'informer sur le rôle de l'armée et sur les enjeux sécuritaires actuels. Ils sont plus de 80 dans le pays et interviennent entre autres dans des classes de 3e. En ce dimanche ensoleillé devant le Reichstag, quelques-uns proposent un quiz au public.
In welchem Land ist die Bundeswehr nicht im Einsatz?
Im Einsatz aktuell.
Quand l'Allemagne est-elle entrée dans l'OTAN? Où est-elle en opération à l'étranger? Vanessa Bildholter est l'une de ces officiers de la jeunesse. Impossible d'éviter le sujet sensible du service militaire lors de ses interventions en classe.
Je constate une certaine incertitude de la part des élèves car nous vivons une période de rupture. Que se passera-t-il dans 2 ans? Seront-ils appelés ou non? Cette incertitude crée une sorte d'angoisse pour leur avenir. Bien sûr, nous ne pouvons pas prédire le futur, mais nous pouvons expliquer pourquoi ce débat a été lancé afin qu'ils comprennent mieux la situation.
Dans les enquêtes d'opinion, une assez large majorité des Allemands se dit favorable au retour d'un service militaire ou civil. Mais le problème, c'est que ce soutien chute massivement chez les plus jeunes, les premiers concernés.
Les pays baltes, eux aussi, poussent pour une hausse des dépenses de la défense. Ils le diront une fois de plus tout à l'heure lors du sommet de l'OTAN à La Haye. Ces pays ont d'ailleurs déjà mis en place ce qu'on appelle la défense totale. Ça signifie que tous les citoyens sont impliqués dans la protection du pays et notamment les femmes qui sont souvent moins représentées dans les armées nationales. Elles sont de plus en plus nombreuses dans les groupes de défense civile, comme l'a constaté notre correspondante Marielle Vituro.
Dans les locaux de l'Union des tireurs, une organisation lituanienne de défense liée à l'armée, les nouveaux apprennent à manipuler les radios. Cela fait partie du cours de base qui dure 7 mois avant de choisir son affectation. Eva Sokolovskite a rejoint l'Union l'année dernière.
Dans la vie civile, je suis chef de projet stratégique. Quand la guerre a éclaté en Ukraine en 2022,
Tout paraissait instable et irréel. Je me suis demandé pourquoi, dans un cas comme ça, je devais fuir mon pays. Je dois participer à sa défense.
Désormais, elle aide les nouveaux, comme Lina Kaminskaite, enseignante en cinéma, à s'adapter. Cours d'orientation, de premiers secours, l'universitaire a découvert un monde nouveau.
On s'essaye un peu à tout, des cours de médecine aux rudiments du tir avec une arme, à savoir comment survivre en forêt par moins de 10 degrés. Ça permet de mieux appréhender quelles seraient nos capacités en temps de crise.
Lina Kaminskaite n'avait l'expérience de la guerre qu'au travers de ses études d'histoire.
La situation géopolitique nous force à agir, à nous donner les moyens. Récemment, dans une conversation avec des proches, on s'est aperçu que souvent les femmes étaient passives, fuyant en cas de conflit. Je ne me voyais pas du tout dans ce rôle et je voulais avoir les moyens d'agir.
En Lituanie, l'Union des tireurs compte près de 17 000 adhérents, un tiers sont des femmes. Plus au nord, dans un autre pays balte, l'Estonie, il existe une organisation similaire, la Ligue de défense. 4 000 femmes y sont volontaires. Ygrid Nielsen a décidé de s'y engager.
Quand il y a 30 000 personnes qui s'entraînent activement à la défense, c'est une force de dissuasion. Ceux qui ont de mauvaises intentions à notre égard réfléchiront par deux fois avant de tenter quelque chose. Et c'est aussi notre plus grand espoir dans la Ligue de défense.
Quand l'Union des tireurs a été fondée en 1919, les femmes ont tout de suite été impliquées, même si au tout début, elles ne pouvaient pas s'entraîner au maniement des armes. Christina Petrauskė est historienne au musée de la guerre en Lituanie.
Quand la Lituanie a déclaré son indépendance en 1918, elle a automatiquement accordé le droit de vote aux femmes. Le fondateur de la Ligue de défense considérait aussi qu'elles étaient les égales des hommes dans la société et elles devaient aussi prendre part à la défense du pays.
En Estonie, Ingrid Ninsel a trouvé sa place dans la Ligue de défense.
Ce n'est pas quelque chose pour laquelle les femmes s'engagent de manière traditionnelle. Il faut du dépassement de soi pour montrer que l'on peut le faire. Il y a des questions qui reviennent. Est-ce que je peux le faire si j'ai une famille ? La solidarité des autres femmes qui sont dans la même situation est cruciale. Je ne peux pas dire que les hommes sont des compagnons difficiles dans cette ligue, mais ils se rendent moins compte de ce que cela implique, le temps sacrifié au détriment de la famille et l'inquiétude pour l'avenir.
Comme le note Lina Kaminskaite, la présence des femmes apporte de nouvelles compétences.
Notre unité de soutien psychologique a été créée par des femmes, avec des hommes, mais c'est une femme qui a pris la direction. Notre présence apporte de nouvelles capacités en fonction de notre expérience sociale. Le genre est aussi une construction sociale et culturelle.
Dans l'armée lituanienne, 11% des militaires sont des femmes. Dans les pays de l'OTAN, la moyenne est identique. La Lituanie fait face à un déclin démographique, mais veut renforcer les effectifs de l'armée. Il faudra donc qu'à terme, la part des femmes augmente.
Reportage à réécouter ce soir dans l'émission Accent d'Europe à 17h10, temps universel.
RFI Midi, Alban Le Prince.
On fait un tour de la presse européenne et tout d'abord le Guardian au Royaume-Uni. On y apprend qu'en Angleterre, les étudiants sortent de la fac avec des prêts de 53 000 livres en moyenne. Ça fait 62 000 euros, un montant très important qui a explosé en un an, plus 10% selon la Student Loans Company. C'est aussi plus du double par rapport aux étudiants écossais, la faute à la hausse du coût de la vie. Le Soir en Belgique nous parle aujourd'hui d'un astéroïde plutôt effrayant. Il s'appelle YR4, fait 60 mètres de diamètre et a 4,3% de chance de percuter la Lune en 2032. Des débris pourraient ainsi être projetés vers la Terre, endommager des satellites, mais heureusement, nous ne serions pas en danger. Et puis El País en Espagne nous raconte la jolie histoire de Maria Rosa, immigrante panaméenne de 46 ans, femme de ménage dans le royaume depuis son arrivée en 2005. Elle a arrêté l'école à 13 ans, mais compte bien bouleverser son destin. Elle vient de passer son tout dernier examen pour devenir technicienne supérieure en administration et finances. Une belle revanche à retrouver dans le quotidien espagnol. Dans les heures qui ont suivi les frappes israéliennes et américaines sur les sites nucléaires iraniens, des images satellites de Fordo, Natanz et Ispahan ont été publiées en ligne, des clichés d'une grande précision mis à la disposition du public, alors que les services de renseignements occidentaux disposent d'images qui présenteraient encore plus de détails. Bonjour Olivier Faure.
Bonjour.
Satellites civils et militaires tentent désormais à avoir des performances optiques de plus en plus proches.
Oui, en mars dernier, la France avait lancé le satellite militaire CSO-3. Là, on parle de très haute résolution, moins de 20 cm. Alors bien sûr, tout ça est secret, car c'est un satellite espion. Mais certains utilisateurs font aussi de la reconnaissance et de l'identification avec des satellites civils plus petits, comme ceux de la constellation Pléiade Néo, dont les évolutions ont été présentées il y a quelques jours au Salon du Bourget, près de Paris. Écoutez Marion Teusillot, responsable marketing chez Airbus.
Donc en fait ici on a des images du satellite Pléiade Néo, c'est un satellite d'observation de la Terre. Et par exemple on a Google qui achète des images, donc des applications militaires mais aussi des applications civiles telles que la cartographie, l'agriculture, la gestion des catastrophes naturelles. Donc il y a deux satellites en orbite aujourd'hui, ce qui fait qu'on peut avoir deux passages de satellites sur la même journée, à peu près une heure d'intervalle.
Voilà, les spécialistes appellent ça la visite plurijournalière. Le satellite va donc faire des bandes de 14 km de large, c'est ce que les experts appellent la fauchée, et chaque pixel à l'écran correspondra à 30 cm dans la réalité, c'est ce qu'on appelle la résolution.
Olivier, cette résolution ne cesse de s'améliorer.
Oui, écoutez à ce propos Caroline Vignal, responsable marketing produit chez Airbus Space.
Aujourd'hui, nos satellites les plus résolus en termes d'imagerie, c'est 30 cm, c'est bien évidemment Pléiade Néo. Et Pléiade Néo va accueillir bientôt, dans quelques années, un troisième membre avec de l'imagerie d'une classe 20-30 cm. Commercialement, c'est le plus qu'on sait faire. On sait aller au-delà pour des clients militaires, notamment européens. Voilà. Pour le public, c'est la limite.
Voilà. Et ces images grand public, donc, peuvent être traitées par des algorithmes afin de trouver exactement ce que recherchent les experts du renseignement, pris le plus souvent sous une avalanche d'images à traiter. Écoutez Victor Mangin, expert renseignement d'origine image chez Safran AI.
On parle d'une intelligence artificielle qui va être capable, sur une image satellite, de détecter, d'identifier des objets d'intérêt militaire. Donc on parle d'avions, de navires, de véhicules, des objets qui sont très présents sur ces images mais qui peuvent être tout petits, quelques pixels, et donc on cherche à les détecter et les repérer automatiquement. La base de données qui a permis d'entraîner ces algorithmes, aujourd'hui, elle est constituée de plus de 50 millions d'observables. Donc sur une image satellite brute, l'intelligence artificielle va être capable immédiatement de trouver ces objets. Donc là, par exemple, de repérer cette forme noire, pas forcément très distinctive, et qui pourtant est un sous-marin ici, un sous-marin de classe Jean, c'est ce que nous sort l'algorithme sur ce site.
Voilà, voir et comprendre grâce aux images satellites, des propos recueillis par Grégory Genevrier.
Merci beaucoup Olivier Four. Notre rencontre quotidienne avec une personnalité du monde de la culture. On va parler danse aujourd'hui, direction le festival Montpellier Danse dans le sud de la France. C'est un grand rendez-vous de la danse contemporaine et notre reporter Bastien Brun a rencontré Camille Boitel et Sève Bernard. Ils viennent présenter un spectacle sans nom qui ressemble souvent davantage au nouveau cirque qu'à la danse contemporaine.
Bonjour Sève Bernard.
Bonjour.
Bonjour Camille Boitel.
Bonjour.
On est ici à Montpellier Danse et ce matin, vous avez donné une leçon de danse. Racontez-moi comment ça s'est passé.
Notre moment favori, je pense, c'est le moment où 80 personnes se mettent à sursauter tous et toutes en même temps. Et puis c'était beau de voir tous ces gens qui se mettent à s'emparer d'un matériau qu'ils ne connaissent pas, qui se lancent avec confiance dans une aventure artistique.
Ici, lors de ce festival, vous avez des performances, donc cette leçon de danse, un spectacle sans nom. Dans ce spectacle, il y a des chutes, il y a des glissades, mais je vais vous demander de le décrire pour les auditeurs de RFI.
Il commence vraiment par son grand final. Donc en fait, au bout de très peu de temps, on voit qu'on ne pourra pas aller plus loin. Et puis ensuite, après, il est plein de petits fragments. On sent qu'on va rencontrer des personnages physiques. Et puis qu'on va les retrouver, et puis en fait c'est comme ça, une sorte de fouille, je dirais, de ces déséquilibres, de ces pertes, de ces abandons, de ces bouleversements, de ces contre-rythmes.
Le burlesque, c'est quelque chose qui est important pour vous, parce que dans ces chutes-là, il y a un peu de Buster Keaton.
Le burlesque, ce qui est fabuleux, c'est qu'il nous donne accès à un plaisir de prendre de la distance par rapport à soi. D'un seul coup, quand l'humour surgit, il nous sauve la vie instantanément, parce qu'en fait, à un moment donné, on voit la beauté alors qu'on était en plein dans une embrouille.
Et puis, ça répare aussi l'idée que c'est inacceptable de tomber. C'est vraiment inacceptable, c'est insupportable. Et là, ça nous soigne un peu.
Vous, Camille Boitel, vous vous mettez dans les pas de vos personnages.
En fait, parfois, on se demande si ça ne devient pas autobiographique. Là, on fait des courtes nuits, on travaille beaucoup en plein soleil. C'est vrai que de temps en temps, on commence à leur ressembler. Je voyais, je commençais à parler même dans ma voix. Je sens que je deviens de plus en plus tremblant. Donc, je commence à ressembler un peu à ce spectacle. D'ailleurs, on s'inquiète.
Et puis après, c'est aussi des personnages qui sont... Ça parle d'une petite humanité, donc quand même... Le personnage de Feignant, il est très savoureux parce que je pense qu'on a tous des petits moments avec une toute petite paresse qui surgit. Et c'est vrai qu'elle est très tentante, cette paresse. Donc bon, c'est vrai que quand le personnage du Feignant arrive, on sent dans la salle que tout de suite, il y a une petite reconnaissance. Et c'est vrai qu'on s'attache facilement à eux. Alors nous qui les jouons, bon, évidemment, on les joue à l'intérieur, donc on commence à les aimer.
Le paresseux, c'est celui qui cherche à attraper quelque chose avec un maître, hein, c'est ça?
C'est lui.
C'est assez beau parce que c'est lui le paresseux, mais c'est aussi lui le fatigué, l'éprouvé. En fait, on ne sait pas exactement non plus, c'est assez ouvert. C'est nous, on l'appelle le feignant, mais en fait, ça transpose beaucoup plus loin que ce qu'on a écrit nous. C'est-à-dire que nous, on écrit des personnages, mais qui sont assez ouverts dans l'écriture pour faire pleurer quelqu'un dans un gradin ou éclater de rire quelqu'un qui se reconnaît. Et c'est vrai que, oui, on ne peut pas s'empêcher d'être un tout petit peu autobiographique dans ce qu'on écrit.
Merci, Seth Bernard.
Bon, merci beaucoup.
Merci, Camille Boitel.
Grand merci.
Au micro RFI de Bastien Brun.
RFI Midi.
Et dans un peu plus de 30 minutes sur RFI à 14h30 heure de Paris, Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Alban.
Au menu aujourd'hui.
En Algérie, le procès en appel de Boualem Sansal, le procureur a requis ce matin 10 ans de prison. L'écrivain franco-algérien est en détention depuis novembre. Il est accusé d'atteinte à l'intégrité du territoire. Le verdict sera rendu mardi prochain. Et puis en Guinée-Conakry, les avocats entament 15 jours de boycott des audiences. Ils dénoncent les violences subies par l'ancien bâtonnier Mohamed de Traoré, kidnappé à son domicile ce week-end en pleine nuit et roué de coups.
Merci beaucoup Nicolas Sûr. À tout à l'heure, 14h30, heure de Paris. Avant le retour du grand journal international dans moins de 3 minutes, de la musique avec Malka Family. C'est ça va sur RFI.
Ça va pas, et tu dis ça va. Et quand ça va, tu dis ça va pas. Ouais, c'est tout toi. Ouais, c'est le coup toi. Ouais, c'est tout toi, ouais, secoue-toi. Ça va, 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 ça va. Hey, hey, est-ce que ça va?
Comment les premières formes de vie ont résisté à l'arsenic?
Autour de la question, Caroline Lachowski.
Découvert par le géologue Abderrazak El Albani au Gabon, les fossiles des plus anciennes formes de vie complexes révèlent à quel point ces organismes étaient experts en survie. Face au stress chimique et à la forte présence d'arsenic, comment se sont-ils adaptés?
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.